Bonjour, bonjour et bienvenue pour le Gamecast épisode 198. Aujourd'hui, je suis avec Marie.
Bonjour.
Et nous allons parler d'un des épisodes les plus mal aimés de la saison 2. Je dis bien un des plus mal aimés.
Oui, c'est marrant parce que moi j'en avais un tellement bon souvenir.
Exactement, nous allons parler de l'épisode Love and Monster ou en français
Linda.
Love and Monster, diffusé en Angleterre, le temps que je retrouve la date...
Le 17 juin 2006.
Exactement. Et en France ?
Le 1er février 2007.
Oh, tu fais bien ça.
N'est-ce pas ?
On a préparé ça. C'est le 10e épisode de la saison 2, on approche de la fin de la saison 2, tu te rends compte ?
Oui.
Et c'est le premier épisode de Dr. Less.
Oui, donc ce sont donc des épisodes... En tout cas, de la nouvelle série.
De la nouvelle série.
Oui.
Série classique, il n'y en a pas beaucoup.
Ah, honnêtement, il y a certains épisodes de la période Hartnell qu'on peut franchement considérer. Alors, à part celui où qui est réellement Dr. Less, où effectivement on le voit quasiment jamais, il y a quand même des épisodes où on le voit pas souvent. Hein.
Oui, il y en a, mais il y en a un seul. Je parle d'histoire, hein, parce que sinon, Si tu parles d'épisodes dans des histoires, oui, effectivement.
Oui,
mais si tu parles d'histoire, le seul où il n'y a aucun du cast de base, même si William Hartnell est crédité, c'est Mission to the End.
Ouais, je sais.
Voilà.
Voilà.
Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un épisode dont je disais un peu mal aimé, parce que c'est vrai que quand on en parle un peu, les gens se rappellent surtout du monstre.
Oui, n'est pas vraiment le point fort de l'épisode.
Exactement, et assez rarement de l'épisode en lui-même.
Oui, c'est ça. Moi, à chaque fois qu'on y pense, je pense même pas au monstre, je pense à la blague de fin.
Oui, ça c'est encore pire.
On en reparlera.
Je pense encore. Donc, nous allons parler d'un épisode sans docteur. Il y a une raison à ça. C'est parce qu'ils avaient besoin... Enfin, ils voulaient gagner un peu de temps dans la production. Donc, ils ont réussi à placer ça. Donc, David Tennant et Billy Piper étaient occupés, en fait, à tourner le double épisode de Planète du Diable.
Oui, c'est logique. Et ils n'ont fait que quelques scènes pour cet épisode.
Exactement. Et donc, le scénario est de Russell T. Davis. L'épisode est réalisé par Dan Zeff. Et l'Absorbaloff a été dessiné par un petit gamin suite à un concours Blue Peter.
Tout à fait.
Voilà.
Donc, c'est pour ça que moi je ne critiquerai jamais ce brave Absorbaloff.
Mais cela dit, quand on regarde le dessin,
c'est pas une si bête idée. Hein.
Non, quand on regarde le dessin est assez différent, quoi. On voit qu'il y a, tu vois,
c'est...
je te montre le dessin.
Oui, mais la base est là. La base est là. Ouais. Hein, c'est pas.
Mais bon, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas nous faire un résumé.
Tout à fait. Alors, l'épisode suit un jeune homme qui s'appelle Elton, comme Elton John d'ailleurs.
Elton Pop. Je trouve ça drôle.
D'accord. Pope, oui. Ah oui, Pope. Ok, d'accord. Elton Pope, donc, qui est une sorte de vlogueur.
Oui,
il raconte sa vie sur Internet avant que ça soit à la mode.
Attends, je vais regarder, pendant que tu continues à regarder, je vais regarder la date de YouTube parce que je...
Ça me rappelle énormément ce qu'était à peu près à cette même période, je pense, Dr. Horrible, Sing-Along, je ne sais plus comment ça s'appelait réellement. Dr. Horrible, avec...
Comment il s'appelait ? Donc, YouTube a été créé en 2005.
Oui.
Et Elton parle et fait du vlog en fait en 2006.
Oui.
Donc il est assez précurseur, même si ça se faisait déjà
tout
beaucoup.
Tout à fait. Mais je vais voir à quelle période c'est Dr. Horrible.
T'as avant, je crois.
Oui, hein. Sing-Along Blog, voilà, c'est ça. Avec.
Neil Patrick Harris.
Neil Patrick Harris, voilà, c'est 2008. Eh ben ça alors.
Ouais, c'est 2008.
C'est après. Donc, oui, vraiment, Elton est très percusseur. Hein. C'est le genre de gars qui aurait pu être sur TikTok avant tout le monde.
Hein. Ouais, c'est clair.
Donc, il nous fait du vlog vidéo tranquille dans sa chambre pour expliquer à quel point il est obsédé par une personne qui s'appelle le docteur. Mmh. Et que le docteur, on le rencontre parfois à des certains moments, il est lié à des affaires spécifiques et tout ça. Et qu'il faisait partie, donc Elton faisait partie, puisqu'il parle au passé, d'un groupe de recherche sur le docteur qui réunit toute une Tout un flot de personnes qui sont aussi un peu perdues finalement. Qui
Un groupe de
ont...
fans, en fait.
Oui, un groupe de fans du personnage historique, le docteur, qui font des recherches sur lui, mais qui en même temps, c'est des gens qui ont parfois, qui sont parfois un peu seuls dans leur vie, qui trouvent un moyen de, comment, d'avoir du contact avec d'autres gens via ce groupe. Ça dérape en cover band,
Oui,
l'Electric Light Orchestra.
électrique avec
Je...
orchestre.
Ils s'amusent bien, comment, ils ont du bon temps tous ensemble et ils finissent par se retrouver phagocytés. Le
On
bon,
peut
celle-là.
dire ça,
On peut dire ça par un gars qui s'appelle Victor machin truc, Victor Kennedy, mais voilà.
oui.
Victor Kennedy qui s'incruste dans leur groupe parce que lui, il fait des recherches sérieuses sur le docteur. Et il a comment une méthodologie, il les domine un peu en gros. Et puis progressivement il les bouffe aussi, accessoirement. Enfin il les absorbe plutôt. Et le docteur va finir par venir s'en mêler, mais vraiment très tardivement. Et le docteur a un petit mystère avec enfin Elton quand il était très jeune.
Oui, parce que Elton a vu le docteur
Quand il était enfant.
quand il était gamin chez lui. Et c'est pour ça qu'il est obsédé par le docteur, parce qu'il aimerait savoir en fait
Oui,
pourquoi.
pourquoi?
Mais c'est des souvenirs qui lui sont
Tout à
revenus au
fait.
fur et à mesure.
Ouais.
C'est pas quelque chose qui. Il avait ça en tête, il avait presque oublié, quoi, enfin.
Oh oui, par exemple, quand il a un flash lorsqu'il entend le bruit du TARDIS.
Oui, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a pensé?
Ah, ben moi j'aime toujours cet épisode et je suis toujours autant déçue de la fin. C'est horrible à quel point j'aime bien cet épisode.
Il faut un poil trop loin, en fait.
Oui, mais ça va légèrement. Ouais, voilà, en fait, ça serait raté, on va dire, à la révélation du moment où Elton se souvient et fait finalement de pourquoi le docteur était dans sa maison quand il était enfant.
Oui.
Ça serait arrêté là, ça aurait été parfait. Parce que ce qui vient après, la conclusion, c'est sans doute. Je dirais pas que c'est la pire fin dans toute la série parce qu'à côté, il y a quand même Journey to the Center of the TARDIS.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est la plus lourde de toute la série.
Non,
C'est la
enfin,
plus beauf.
disons que
C'est la plus.
c'est une blague un peu bouffe.
Ah, c'est
En fait,
horrible, quoi.
autant que le docteur fasse revenir sa copine,
Oui.
pourquoi pas. Le problème, c'est que ça se finit sur Ah, mais on a même une vie amoureuse. Ah, ils sont pas obligés de savoir ça. Et là, tout de suite, tu te dis Ouais.
Ouais, on n'était pas obligé de savoir ça,
Ouais,
effectivement.
dans ta tête, tu pouvais t'imaginer des trucs pour les fanfictions si tu
Ouais.
veux, mais en soi, je trouve que c'est vrai que en fait, c'est vrai qu'il y a l'épisode aurait techniquement pu se finir un tout petit peu plus tôt. Il y a même un moment où tu m'as dit l'épisode aurait dû se finir là, et c'est vrai que c'était pas plus mal.
Oui, bah,
Mais
juste
ça aurait
après
été, en fait, ça aurait
la.
été une fin assez abrupte, voire peut-être
Oui,
trop abrupte. Il
mais il
fallait trouver
aurait.
une
Oui,
légère conclusion.
une légère conclusion, mais il aurait pu passer, ne pas mettre la blague dans la
Ouais,
conclusion.
non, c'est ça. C'est ça.
En fait, il n'y a que la blague qui est vraiment très mauvaise et qui, voilà, qui gâche un peu, en fait, tout le truc assez émotionnel quand même qui vient juste avant. Et cette blague est lourde. Oh
Oui.
là 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 là, qu'est-ce qu'elle est
Oui, c'est vrai,
lourde.
elle est un peu trop légère dans l'épisode, en fait.
Ouais, c'est.
C'est dommage.
Ouais.
Moi, il y a un truc, moi j'ai toujours aimé cet épisode, j'ai toujours défendu, pour la bonne et simple raison, il y a du Electric Light Orchestra.
Oui, pas que, aussi du Ildivo. J'avoue
Oui.
que quand j'ai reconnu Ildivo, j'ai eu l'impression d'être devenue adolescente.
Du Ildivo. Mais bon, moi c'est surtout pour Electric Light Orchestra, qui
Oui.
est probablement un de mes numéros 3, des 3 groupes préférés.
Ok.
Tu le sais très bien parce que j'ai longtemps cherché un morceau en
Oui.
version longue qui n'existe pas sur vinyle. Roll Over Beethoven.
Oui, je sais.
Et donc, Electric Orchestra, on les connaît surtout pour Mr. Blue Sky, qu'on entend dans l'épisode d'ailleurs. Don't Break Me Down, qu'on entend aussi dans l'épisode. Et un troisième, j'ai un doute sur lequel
Bah,
c'est.
Relever Beethoven aussi, on le connaît très bien pour ça, hein.
Ah, je suis pas sûr que ce soit une
Ah
version que je
non, l'autre
connais.
chanson, c'est Turn to Stone.
Oui, c'est ça, Turn to Stone, oui. Qui est aussi un morceau que j'aime beaucoup.
Voilà.
Mais ça, c'est parce que c'est principalement. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que c'est principalement des morceaux qui viennent de l'album Out of the Blues, qui est l'album le plus connu d'Electric Light Orchestra. C'est un double album.
Non, parce que dans Bring Me Down, c'est Discovery, si mes souvenirs sont
Ouais, c'est
bons.
juste après, c'est bien,
Dans The Soul,
mais
j'ai
Turn to
oublié.
Stone, c'est le cas, c'est Out of
Out
the
of the
Blue,
Blue, oui.
Et Mr. Blue Sky aussi, mais c'est bien ça, Don't Bring Me Down, c'est l'album d'après. Et...
Perso, j'ai une préférence pour. Bah, j'aime beaucoup Revolver Beethoven et j'aime beaucoup Last Train to London.
Bah, c'est Out of the Blues aussi, Last Train
Ouais,
to
je sais,
London.
mais j'ai une petite préférence pour celle-là.
Alors, ce qui est dommage, c'est qu'Out of the Blues... Alors, désolé, je vais geeker un peu sur Electric Light
C'était pas
Orchestra.
supposé être la présentation de la semaine parce
Non,
qu'on n'avait
non.
pas d'idée de présentation de la
Non, on va
semaine.
parler de Mark Warren.
Ah, oh, je pensais qu'on avait parlé de Blue Peter.
Non. Ah, quoi qu'on pourrait parler de Bobby Peter, on verra.
C'est qui Mark Warren déjà?
C'est l'acteur qui joue Elton, pas?
Ah oui. Ah oui.
On verra. Vous aurez la surprise dans la seconde partie. Vous a donné plusieurs pistes. Et donc, Electric Light Orchestra, Out of the Blues, c'est ce qui est, c'est en fait les vestiges d'un album concept. Puisqu'à la base, il avait commencé, le leader Jeff Lynne avait commencé à travailler sur un espèce d'album concept avec toute une histoire. Alors, je suis pas fan au point de vous dire exactement quoi, dans quelles conditions. Mais en fait, la moitié de l'album, c'est le vestige de cet album concept qui s'est finalement pas fait. Parce qu'ils
D'accord.
n'ont pas réussi à compléter, enfin ça marchait pas. Et donc, bah, ils ont
Ouais.
fait ce double album.
Un peu comme Bookends pour Simon et Garfunkel.
Voilà. Et Out of the Blues est considéré comme étant l'album le plus accessible d'Electric Light Orchestra, le plus disco.
Oui, effectivement.
Clairement, pour certains morceaux, il y a vraiment ce côté disco, même si
C'est
c'est
celui dont
pas
la
du
pochette est
disco.
la plus connue aussi.
Voilà, c'est le plus connu. Mais c'est pas celui que je préfère. Enfin, en
Ok.
tout cas, plus maintenant, depuis que je connais le reste de leur discographie.
D'accord.
J'ai une très grosse préférence pour leurs trois premiers albums.
Oui, qui sont très différents en fait.
Ils sont très différents, mais il y a une raison très simple, c'est parce que c'est du rock prog.
Oui, ce n'est plus, ce n'est pas, ce n'était pas encore du disco.
Voilà, donc
Voilà.
du rock progressif. Et c'est très différent. Moi, j'ai une grosse préférence pour rock prog, plutôt que pour le pop rock disco, que j'aime beaucoup aussi. Mais il faut écouter les trois premiers albums, donc c'est Electric Light Orchestra,
Hello
Hello
2.
2 et... Ah, j'ai oublié le nom du troisième.
Ouais, non, ça je peux pas t'aider. J'ai pas ça en tête. Je peux aller faire une recherche, mais à part ça.
Et il y a vraiment des morceaux excellents dans ces trois albums que je conseille vraiment si vous n'avez pas l'habitude. Ça peut être très déstabilisant si vous n'avez pas l'habitude du rock prog. Parce que le rock prog, comment tu définirais le rock prog, toi?
Le rock prog, c'est
Du
du
rock
rock.
sous drogue.
Non, non, non. Je dirais que c'est. Moi, je prendrais dans l'autre sens. Je dirais que ce sont des compositeurs qui ont été influencés par le rock. Des gens qui auraient pu être compositeurs dans une autre période,
Ouais, compositeur
compositeurs
classique.
classiques, qui ont été très influencés par le rock et la drogue, quand même, un peu.
Ouais, parce qu'il y a ça, parce que si on parle un peu rock prog, honnêtement, il y a beaucoup d'albums. Parce que le rock progressif, c'est quand même une courte période du rock. Même s'il y en a de temps en temps, même encore à l'heure actuelle, qui se
Alors, c'est On
disent.
the Third Day,
Oui, c'est
le
ça, On the
troisième
Third Day.
épisode.
Il y a encore des groupes qui se disent rock progressif, parce que c'est pas quelque chose qui a disparu, mais
Ah,
c'est quelque
tout à
chose qui
fait.
se fait beaucoup moins, parce que c'est souvent des longs morceaux.
Oui, c'est difficile de les passer à la radio, hein.
Même quasiment impossible.
Oui, à part, faut être classique 21 pour le faire, quoi.
Oui, c'est ça.
Une radio belge qui passe en fait réellement les morceaux en entier. Je me
Oui.
souviens allez, de plusieurs occasions. Une fois où j'allais te chercher au boulot et où en fait quand j'ai pris la voiture, ils commençaient à diffuser la face A de comment Tubular Bells et elle n'était pas encore finie quand je suis arrivée te chercher.
Oui, parce que il fait 12 minutes
Tubular Bells, non, il est beaucoup plus long. Il fait une vingtaine de minutes.
Oui, alors
La face A fait une vingtaine de minutes.
je
En tout
confonds
cas,
toujours.
là c'était la version sur 20 minutes. Et un soir très tard, en revenant d'un concert, j'ai pris la voiture à Forêt nationale à Bruxelles, et à ce moment-là, j'habitais à Mons, avec toi. Et arrivé sur l'autoroute, ils ont commencé à mettre, c'était Yes, c'était
Close to the edge.
Close to the Edge, voilà, c'est ça. Et je suis arrivée à Mons, que la chanson se finissait. Je disais, ah, ok, d'accord, c'était bien. Et j'ai acheté l'album la semaine d'après, d'ailleurs. Enfin, en tout
Oui,
cas,
parce
là.
qu'il est bon.
Oui, il était bon, mais je
C'est
l'avais jamais
probablement leur
écouté en
meilleur
fait.
album.
J'avais pas spécialement écouté avant, donc c'était une belle découverte après un chouette concert.
Enfin bref, je dirais que pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter du... Enfin, qui connaissent un peu le rock, mais qui n'ont pas l'habitude, qui savent pas ce que c'est que le rock prog et qui voudraient donner un coup d'oreille pour savoir, je dirais qu'il faut deux choses. Il faut, un, être dans l'état d'esprit.
Ouais.
C'est pas. En fait, c'est quelque chose que tu écoutes vraiment pour te détendre.
Ah, il y a des moments où ça m'énerve, en
Ouais,
fait.
voilà. Enfin, c'est quelque chose. Parce que souvent, c'est des morceaux assez longs. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut pas écouter dans des moments où tu es énervé ou des moments où t'as pas la tête à la musique, en fait. Parce que
T'as
c'est
pas la
vraiment
tête
des.
à la musique, ou alors tu as. Enfin, moi, par exemple, j'ai la. Je dirais la zapette chronique. C'est que s'il y a une chanson que j'ai pas envie d'écouter, je fais. Enfin, je fais. J'avance, j'avance, j'avance. C'est pour ça que j'aime écouter certains albums sur vinyle, parce que je.
Tu peux
C'est
pas
beaucoup.
avancer
Ouais, je
comme
peux.
ça.
Enfin, si, je pourrais le faire, mais c'est beaucoup plus fastidieux de se lever, d'aller changer, d'aller viser sur la bonne face, tu vois.
Ouais.
Donc, moi, quand je découvre un album, je préfère toujours le découvrir comme ça. Si la chanson me saoule, je l'écoute quand même jusqu'au bout, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Et effectivement, c'est difficile d'être dans cet état d'esprit parfois.
Oui, parce qu'on a l'habitude, en fait, d'utiliser, de consommer la musique, tu sais, à une vitesse, d'avoir ce. En fait, le format radio a complètement parasité la façon dont on consomme la musique et dont on l'écoute.
Oui, et le streaming aussi, parce que notamment avec le shuffle, donc de mélanger tous les morceaux. Bah, j'aime bien le faire quand j'ai fait une compilation de mes morceaux préférés, je fais un shuffle, ouais, ok. Mais un album, parfois, ça a du sens de l'écouter dans le bon sens.
Oui, il y a des albums où c'est très important.
Et ça se perd avec le shuffle. D'ailleurs, gros troll, désolé, deuxième fois que je cite Paul Simon dans ce
C'est pas
podcast.
grave.
Gros troll de Paul Simon, il y a quelques mois, où il a sorti un de ses. Enfin. Son nouvel album, en fait, c'est plus un EP qu'un album, mais bon, parce qu'il dure quoi, une trentaine de minutes.
Il est court.
Il est très très court.
Il n'y a qu'une face
Mais
sur le vinyle.
non, il y a deux faces, mais assez courtes, en fait. Mais il est en train de perdre l'audition, en fait. Il a
Ah,
commencé
c'est
à perdre
ça.
l'audition au moment où il était sur cet album. Donc, je pense pas qu'il l'ait bâclé. Je crois qu'au contraire, il l'a très soigné, mais il n'a pas été au-delà de sept morceaux. Et en fait, il considérait que les morceaux devaient s'écouter les uns ceux des autres. Donc en fait, il a posté un gros morceau de 30 minutes sur Spotify en mode fuck.
Ouais,
Allez.
mais c'est pas plus mal parce que Spotify, si t'as pas la version
Oui.
payante, bah tu
C'est dans le
tapes.
désordre.
Non seulement c'est dans le désordre, mais tu cherches un morceau que tu veux écouter, tu cliques dessus et t'as quand même un autre morceau.
Oui.
Et ça, c'est très
Donc
chiant.
là, il a juste fait un gros doigt d'honneur à Spotify et à YouTube et au système de shuffle.
Ouais.
Et si tu veux écouter, tu dois écouter les 30 minutes. Voilà.
Pour finir sur rock progressif, moi ce que je vous conseille c'est d'écouter donc les trois premiers albums d'Electric Light Orchestra si vous ne connaissez pas.
Oui.
Parce qu'il y a une grosse note classique dans ces trois albums plus que par la suite. La composition est un peu plus riche aussi, même si honnêtement Electric Light Orchestra c'est quand même assez riche. Est-ce que tu conseillerais des albums de rock prog? Moi, oui, j'en ai quelques-uns, notamment Deep Purple et l'un de leurs premiers albums.
Oui, ok. Je ne sais pas quel album tu parles.
J'ai un gros doute, je vais juste regarder pendant que toi tu en proposes.
Moi, j'ai tendance à virer vers le rock prog folk.
Oui.
Donc, il
Et c'est
y
vrai
a.
que nous, on a des choix, on a des goûts différents.
Oui, assez différent. Oui. On n'aime pas forcément les mêmes albums. Alors, moi, je conseillerais par exemple le groupe Renaissance. Qui fait des trucs vraiment très bons. Pour débuter avec eux, je conseille assez bien le concert au. C'est au Albert. Non, c'est pas. C'est au Carnegie Hall du groupe Renaissance, qui est vraiment très agréable à écouter parce que c'est un peu leur meilleur morceau. La captation est bonne pour un concert. Il y a une bonne ambiance et ils vont quand même assez loin dans le morceau. Ils les raccourcissent pas, quoi.
Ouais, c'est ça.
Sinon, comme album tout seul, Ashes Are Burning et Scheherazade,
Oui.
qui sont vraiment
De
très bien,
Renaissance, ouais.
de Renaissance. Alors, fou là là, en fait, là, je suis en train de regarder mes disques et j'ai vraiment un gros blanc. Donc, vas-y, tu as trouvé
Alors,
le.
oui, moi, l'album de Deep Purple que je conseillais, c'est Deep Purple. En fait, c'est leur troisième album qui date de 69. C'est vraiment la première époque de Deep Purple, donc c'est vraiment assez rock, psychédélique, rock progressif.
Oui.
Et on a plusieurs morceaux que je conseillerais. Donc le premier c'est Chasing Shadows, qui est le morceau d'ouverture d'ailleurs de l'album. Blind, qui est pas mal aussi. Et surtout April, qui est le dernier morceau qui fait 12 minutes. Alors, vous allez probablement me maudire si je vous dis à chaque fois, il me propose un morceau de 12 minutes, où est-ce que je vais prendre le temps d'écouter ça? C'est quasiment la temps d'un moitié d'un Big Finish, quoi. Écoutez ça dans votre voiture, ou je sais pas. Mais après, c'est vraiment intéressant parce que c'est le mélange entre le rock de Deep Purple, mais le classique présent. À une raison près, c'est que le pianiste qui se nomme John Lord, qui est malheureusement décédé et qui était l'un de mes pianistes préférés, était capable de faire des compositions classiques, à tel point, et il y a une raison, c'est qu'ils ont fait un album qui s'appelle Concerto for Group and Orchestra, qui n'a été fait que à très peu d'occasions,
Oui.
et l'album a été composé en 3 jours.
Ouais. C'est le fameux album qui est mal enregistré.
Oui,
Oui.
malheureusement, il a un défaut, c'est qu'il a été mal enregistré, donc le son n'est
Ah,
pas
la
optimal.
captation est pas folle, hein,
Voilà, mais il a quand même été joué à, je crois, 2 jours de suite au Royal Albert Hall avec le London Symphonic Orchestra. Et donc, c'est littéralement un groupe de rock qui répond à un groupe de musique classique. Et pour un truc composé en 3 jours, c'est pas le meilleur morceau de musique classique que vous aurez entendu, c'est pas du Beethoven. Mais c'est quand même vraiment très bon. C'est en 3 morceaux, c'est en 3 parties. Vraiment, le troisième morceau, il arrive.
Alors, ben, autant proposer quand même quelques autres groupes. Ben, on parlait tout à l'heure de Tubular Bells, on a Michael Field.
Ah oui, ça, c'est le plus important. Ça aussi, alors ça, Tubular Bells, composé quasiment en une nuit, le truc. Tu te
Oui.
dis. Et le gars, il était à peine majeur quand il a écrit ça.
Oui.
Michael Field, autiste. Il
Alors,
déteste la foule.
tu m'étonnes. Alors, il y a Alan Parsons Project que je peux proposer aussi, mais pas
Ouais,
tout.
pas tout, non.
Pas tout.
Les débuts, surtout.
Qu'est-ce que je voulais. Ah oh, mince, Aphrodite Child, est-ce qu'on peut considérer
C'est
que.
très spécial. Je
Ouais.
ne considérerais pas Aphrodite Child parce que c'est vraiment très spécial et l'album 666 est vraiment bien.
Ouais.
Mais alors, faut vraiment être dans un état d'esprit particulier pour l'écouter.
Je pensais à Wallenstein, mais pas tout aussi. Il y a cet album qui s'appelle Stories, Songs and Symphonies,
Oui, il est bon, celui-là.
qui est très bon. Yes, on a parlé de Yes tantôt. Je suis en train de passer.
Genesis, le début de
Genesis, le
Genesis.
début de
Le début de
Genesis, ouais.
Genesis au moment où Peter Gabriel était encore dans le groupe est très rock-prog, très psyché aussi.
Ah, Flower, pardon. Bah
Mais c'est
si,
bon.
oui, c'est bon, oui. Je pensais à un concert
Oui.
où, quand il dit The A Flower, il changeait tout à fait de
Et il a un
costume et il
costume.
était en costume de fleur.
Et c'était Peter Gabriel.
Ah, c'était Peter
Ah,
Gabriel,
c'était
ok.
Peter
Ouais,
Gabriel.
c'est vrai.
Il s'est calmé depuis.
Ah, t'en as pas tellement de Deep Purple finalement.
Non, j'en ai pas tellement.
Continue à.
Ouais, le rock prog, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'il faut écouter dans un
Est-ce que les
certain esprit.
Eagles, c'est du rock prog?
Ouais, un
Un
peu
petit
certains
peu.
morceaux. Eagles, c'est le groupe dont Douglas Adams a repris un des morceaux pour en faire le thème de
Oui.
H2G2, c'est-à-dire
Journey
John of the
of the Sorcerer.
Sorcerer.
Exception, mais c'est
Exception.
ouais, ça peut, c'est sympa aussi. Écrit Glack Orchestra. Emerson, Lake and Palmer.
Oui, aussi. Keith Emerson.
Désolée, j'ai plus de 700
ELP,
disques,
en
c'est
fait.
mon problème.
Ouais. Oh, on en a déjà donné
Ouais,
quelques-uns pour
voilà.
écouter.
Ouais, Trees.
Trise, mais le vinyle est super rare.
Ouais,
Et ça, c'est
c'est
du
difficile.
folk, en fait.
Ouais, c'est du folk, mais un peu de prog dedans. Ce serait du folk prog, donc sans le rock avec. Un peu comme Steely Icepan aussi. Qui ont aussi leur très long morceau, hein. Tamim
Ah
est un
oui,
super.
Iron Butterfly avec le morceau Inagada Vida
Oui.
qui et apparaît dans les Simpsons dans un gag qui m'éclate. Parce que quand on connaît le morceau fait, je suis, presque 20 minutes aussi, je crois. Et en fait, Bart Simpson est à l'église et il a remplacé en fait toutes les partitions par Inagada Vida. Donc ce qui fait qu'à la messe, la pauvre, celle qui est au piano, elle fait le morceau en entier.
La
Et
pauvre.
tout le monde est en transe à la fin de la messe.
Ouais. Après c'est pas illogique puisque Anagada Davida c'est littéralement une mauvaise compréhension entre deux membres du groupe quand l'un disait ah oh, on va appeler ça dans le jardin d'Éden.
Mais
In a Garden of Eden.
il
Enfin
n'a
bon bref.
gardé Eden.
En rock prog comment. Moderne, je parlerais peut-être de Jack White avec Lazaretto.
Ouais,
C'est un album
encore.
concept, mais c'est
C'est
pas.
un
Ouais.
album concept plus que du rock prog
Ouais.
parce qu'en fait, Jack White, J'arrive pas à les classer
Non, moi non
et je
plus.
suis pas très fan de ce
J'ai
qu'il
trop tout.
J'ai trop tout aussi qui est très bon, mais c'est aussi du folk.
C'est aussi du... Ouais, il y a du folk, et puis c'est... Ah, il y a John Lord ici, Sarah Band. C'est du folk, et c'est un peu les... Comment... Les parrains à Steely Span.
C'est ça.
Inferno, Kate Emerson. Ah oui, ok. King Crimson.
Oui, Kim Crimson.
Qui tourne aussi vers le folk.
In a court of the Crimson King.
Oui,
Crimson King, pardon.
Et oui, bah, vous connaissez certainement la pochette de cet album avec un gars en très haut gros plan. On a presque réussi à reproduire la fausse cette pochette il n'y a pas longtemps avec bébé.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bref, on va revenir peut-être un peu à Doctor Who.
Oui, pardon.
Alors, l'Absorbaloff, qui est souvent considéré comme étant le point noir, parce que, en fait, là, il y a beaucoup de gens qui parfois n'ont pas vu l'épisode et qui s'imaginent que tout l'épisode, en fait, c'est ça.
Ouais, alors qu'il n'est pas là très longtemps.
Alors, ouais, alors que l'Absorbaloff, c'est un peu cliché de Doctor Who, quoi. Tu sais, ces monstres en latex qui sont ridicules et qui font.
Ouais. Ouais, franchement, s'il y a des gens qui considèrent que l'Astrovalov c'est l'un des pires monstres de la nouvelle série, non, je trouve que c'est mal.
Il était volontairement ridicule en
Oui.
fait. Il est joué par le comique Peter Kay, donc un comique anglais qui a lui-même voulu jouer dans Doctor Who.
Et du coup, c'est Victor.
C'est Victor Kennedy, oui.
Ok, donc il joue à la fois le gars en costume et le
Oui,
gars en
voilà.
vrai.
Il joue les deux.
Ok.
Et alors, c'est une rumeur parce que je l'ai vu mentionner plus d'une fois sur Twitter et sur Facebook. Mais je ne l'ai jamais vu mentionner, en tout cas dans une interview, dans une publication officielle. Ce qui peut se comprendre quand je vais dire ce que je vais dire. Mais a priori, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'Absorbaloff et le concept même de l'épisode est une critique envers Ian Levin. Et
Oui.
quand on connaît un peu le personnage, on peut se dire, ouais, c'est un peu légitime dans le sens où effectivement, Ian Levin, c'est ce fan qui arrive dans un groupe, mais qui considère que les recherches qui doivent être faites sur Doctor Who doivent être sérieuses. Et tout ce qui sort un peu en dehors, effectivement, c'est pas bien. Alors, c'est un peu insultant envers Ian Levin. Le personnage est ce qu'il est, et c'est vrai que, bon, il n'est pas toujours très sympa sur Internet,
Non.
même pas
Non, non,
souvent.
du tout.
Mais d'un autre côté, je trouve, enfin, si c'était vraiment le cas, je trouve que c'est encore plus insultant de faire tout un épisode sur le gars. Tu
Oui,
vois, honnêtement.
voilà. C'est oui.
Mais c'est.
En gros, c'est supposé effectivement quand même représenter les fans, on va dire,
L'énormie.
passionnés. Non, les fans passionnés, mais
Oui.
comment, qui sont là
Pour le
pour
fun,
le
pour se
fun.
rencontrer, tout
Voilà, c'est
ça.
ça. Et les fans pinailleurs.
Ouais. Ouais, c'est ça, en fait.
Les tatillons, dédiés, spéciales dédicaces.
Il écoute
Les...
pas Gaïka, je pense.
Non, je pense pas. Bonjour,
Si tu
tatillon.
l'écoutes, dis-le nous, et laisse un commentaire.
Voilà.
Quelque part.
Voilà, voilà, serait plutôt Victor slash la Zerbaoff. Et... Ah, ça m'attriste un petit peu parce nous sommes des Victor. Quoique,
Non, on l'est
non.
pas, faut pas
Non,
exagérer,
non, on est
non.
plus dans la team Elton.
Oui, c'est ça, c'est juste, on fait des trucs fun, quoi. On n'est pas du genre à être, enfin, je veux dire, à être
Ah, beaucoup
si
moins
vénère sur
qu'avant,
des
beaucoup
trucs.
moins qu'avant, je
Mais non,
trouve.
mais je pense que
J'étais plus
tous
avant.
les fans passent toujours par cette phase du Oh, j'aime bien Doctor Who, c'est sympa, je vais regarder. Et puis soudainement, tu commences à avoir plus de choses à connaître parce que tu es pile poil dans une période.
Oui.
Période Moffat, période RTD, période Chibnall. Et dès que ça change radicalement, tu commences à dire, ouais, mais non, ça ne correspond pas avec le reste.
Ah ben justement, j'ai eu mon collègue d'une autre bibliothèque avec qui j'ai été au téléphone pendant 5 minutes aujourd'hui,
Wow.
complète, où on n'a parlé que de Doctor Who.
Wow.
Oui, mais je savais déjà que c'est... Et il me disait, oh là là, qu'est-ce que je regrette Matt Smith? J'étais, ah ouais, mais enfin, faut passer à autre chose quand même,
Ouais, c'est ça.
Sébastien.
Mais donc le truc, c'est que en fait, tous les fans, je pense, passent plus ou moins par cette période où c'est oh j'aime bien, oh attention, c'est super bien, je sais tout sur le sujet, ah oh, c'est dégueulasse ce qu'ils font, et ensuite c'est oh bah tant pis.
Oui, et je pense qu'on est dans le oh bah tant pis.
Ouais, mais il y en a qui dépassent pas
Non,
qui
non,
arrivent
bien
pas à
sûr.
ça là, tu
Ouais.
vois, parce que bon, ça peut se comprendre en fait quand tu es fan de la série depuis quasiment les années 60.
Oui.
Parce que c'est beaucoup plus difficile d'avoir regardé, disons, 30 ans de série
Oui.
et de passer à autre chose, tu vois.
Ouais, je sais,
Parce
ouais.
que honnêtement, la première série et la deuxième série, c'est déjà un jour et la nuit, hein.
Ouais, tout à fait.
Pour un fan de la première série, la deuxième série, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est limite si ça, enfin, c'est une nouvelle série, quoi. Enfin, c'est très différent sur la structure, sur la manière dont c'est monté, sur la manière dont les scénarios sont faits, tout ça. Donc je peux le comprendre. C'est pas pour ça que j'assume, enfin je dis que c'est bien de critiquer à fond, non, au contraire. Mais ça peut se comprendre. Mais bon, j'ai vu la critique mise en avant par beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. J'avoue que vis-à-vis de Russell T. Davis, j'ai un peu du mal à savoir s'il serait capable ou non de faire ça en fait.
Ouais, parce que quand on y pense, ça fait un peu quoi, un peu salaud.
Ouais, c'est ça. Et je pense pas que parce qu'il a il, en fait l'épisode pour lui c'était un message d'amour envers le fandom.
Oui, et ça se ressent d'ailleurs que c'est plus un message d'amour que de haine,
Ouais.
parce que ça a pas du tout le même mood que l'épisode avec Sherlock dans, je sais pas, du coup Sherlock BBC,
C'est
où on
saison
voit,
3.
ouais, je crois que c'est saison 3, où on voit les fans qui pensent que le docteur, que le
Que
docteur, que
Sherlock.
Sherlock est vivant, qui font des théories, et tout ça. Là, on ressent pas l'amour là.
Ouais, c'est plus ironique.
Ouais, on ressent pas l'amour du tout de la part de Moffat, alors que oui, et c'est pour ça je pense que j'aime quand même, malgré cette horrible blague de fin, c'est pour ça que j'aime quand même beaucoup Love and Monster, parce que c'est la plupart du temps les fans, mais c'est ce qu'on aime être entre Whovian.
Ouais, parce que quand tu regardes un peu comme nous, on est un tout petit peu dans les fan clubs, on a vu pas mal de choses depuis. Et quand tu vois les personnages de cette histoire, au final, ça correspond assez à ce qu'il y a. Bon, t'as pas, je dirais pas que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui cherchent leur gamine qui est perdue à cause de la drogue.
Non.
Mais
Ah oui,
d'un autre
mais j'ai
côté.
rencontré notamment dans le fandom de Toro beaucoup de gens qui sont un peu écorchés quand même. Tu vois
Oui,
ce que je veux dire?
oui. Moi, je
Qui
me
ont
rappelle.
des difficultés pour certains trucs et qui sont qui prennent de la qui trouvent de la joie dans le fait de faire partie du fandom par rapport à un quotidien qui n'est pas forcément toujours très joyeux.
Oui, d'ailleurs, dans le stage de Gay France, fut une période où on a eu une personne autiste, mais tu sais, sévère. C'était Scalpinoc.
Il n'y a pas de d'autisme sévère, il
Si,
y a
parce que.
plusieurs types d'autisme.
Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que quand. Parce tu sais qu'il était revenu à des conventions, mais on avait ses parents avec lui.
Oui.
Parce qu'il n'était pas capable de sortir tout seul, parce qu'en plus, il était jeune, tu vois.
Oui.
Et ses parents nous avaient dit, je crois, que c'était des rares fois, tu vois, où il se mêlait à des gens.
Oui, je me souviens.
Et
Il avait un intérêt spécifique sur l'espace Cybermen.
voilà,
Et
c'est
il était
ça.
très intéressant quand il expliquait vraiment long, large et travers
D'ailleurs,
les Cybermen.
il a fait des Gaïcasts avec
Oui,
nous.
je me souviens.
Donc ça montre bien que parfois les fandoms, en fait, on les critique souvent, on les ridiculise souvent. Surtout du côté des Américains, où par exemple quand on montre des fans de Star Trek, c'est toujours des gros boutonneux
Oui.
qui sont dans leur cave à collectionner le moindre numéro. Alors qu'en réalité, bah en fait, c'est pas du tout ça, quoi,
En
en
tout
fait.
cas, j'ai rencontré des tonnes de gens différents dans le fandom de Toru. C'est très diversifié, ça n'a rien à voir. Il y a
C'est
de
ça.
tout. Et globalement, en tout cas dans le fandom jeune, j'ai envie de dire, c'est des gens relativement ouverts.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Et c'est le principal.
Question. Est-ce qu'on peut considérer Moody Blues et l'album Days of Future Past de Rock Prog?
Oui.
Ok,
Les Moody Blues,
et
oui.
tu sais ce qu'on a complètement oublié?
Non.
Pink Floyd.
Ah bah oui, Pink Floyd. Ouais, mais en même temps, Pink Floyd, ça dépend aussi de la période, parce que
Oui. La Procolarum aussi, un petit peu.
le début de Pink Floyd, c'est trop psyché.
Ouais.
Faut vraiment aimer le psychédélique pour aimer le début de Pink Floyd et leurs premiers albums, que je n'aime pas par exemple. Pas spécialement en fait, parce que en fait, honnêtement, il y a certains des albums, faut vraiment être défoncé pour les apprécier.
D'accord.
Il y avait notamment, j'ai oublié son nom, mais l'un des leaders de Pink Floyd à l'époque, qui a quitté le groupe à une période, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que le groupe a changé de sonorité. Je suis pas sûr d'ailleurs, je me demande si c'est pas à ce moment-là où Roger Waters est aussi rentré dans le groupe. J'ai un doute. Parce que je connais pas assez l'histoire de Pink Floyd, honnêtement.
Non.
Mais donc, quand ce membre-là est sorti du groupe, il faut savoir qu'il était vraiment très accro à la drogue, à tel point que pendant les concerts, il jouait qu'une seule note. Pendant tout le concert.
Oui.
C'était son trip. Mais bon, il y a la seconde période de Pink Floyd, enfin, je connais pas encore une fois assez. mais il y a plusieurs albums dont j'aime beaucoup de cette période-là. Et c'est pas ce qu'on entend toujours, parce qu'on entend toujours parler de Dark Side of the Moon,
Oui, ou
qui
The
est un
Wall.
très très bon album, ainsi que The Wall, qui sont de très bons albums, mais c'est des albums qui sont concept plus que rock prog. Dark Side of the Moon, il y a plus ou moins une continuité dans l'histoire, mais c'est des petits morceaux, tu vois. Et The Wall, c'est un album concept, clairement, parce que ça
Oui.
raconte une histoire du début à la fin. Et par contre, Atom Heart Mother,
Oui.
ça raconte rien, c'est juste de la musique. Et mon autre préféré, qui est donc Medal,
Oui.
puisqu'il y
La
a.
médaille est très bon.
Il y a deux morceaux que j'adore dessus.
D'ailleurs, il y a un des morceaux, quand il le joue en France, en concert, on
Ben,
entend
j'allais y
clair.
venir.
Ouais, voilà, d'accord.
J'allais y venir, justement. Donc, dans Medal, il y a deux morceaux que j'adore. Il y a, bien sûr, le morceau de fin qui est. Maintenant, j'ai des trous.
Comment? One of these days?
One of these days, oui. Non, non, ça, c'est pas one. Non.
One of these
In
days,
Little Pieces, ça c'est le
I
nom complet. Je vais vite regarder sur Wikipédia.
will get you. Est-ce qu'on parle plus du tout de l'épisode?
Non, pas du tout l'épisode, mais c'est pas grave. Ouais, je crois que c'est.
Oui. Donc petit rappel, lorsque vu que tu es en train de faire une recherche, il n'y a pas différents degrés d'autisme. Il y a
Oui.
de l'autisme avec ou sans problème comment autre en fait.
Oui, non, mais
Souvent
c'est ça que je
c'est
voulais dire en fait.
oui.
C'est qu'il en sociabilité, il avait beaucoup de mal
Ouais,
d'habitude.
c'est ça.
Et
Donc il y
que
a les
c'était son intérêt
curseurs.
spécifique qui lui permettait en fait d'aller
Voilà.
dans le groupe.
C'est les curseurs qui sont positionnés différemment. Et c'est pour ça, et comment ce n'est plus du tout répertorié dans le DSM-5, les niveaux d'autisme. C'est on est autiste ou on ne l'est pas, et on a un comment plus ou moins de difficultés sur certains points, en
Oui,
fait.
voilà.
Et un des points peut être la sociabilité, ça peut être la sensibilité, l'hypersensibilité à certains sens, par exemple, qui peuvent poser problème aussi très fortement. Voilà. Donc il n'y a pas autiste lourd et autiste léger, ça n'existe pas.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Mais c'est ça que je voulais dire, en fait.
Oui, bien sûr.
Désolé.
Non, mais je préfère toujours le dire pour ne pas comment
Qui est de malaise.
malentendu, tout
Ouais.
à fait.
Donc, le morceau dont je voulais parler, c'est Echo, ce qui fait quand même 23 minutes 31 secondes.
Oui.
C'est le morceau qui a beaucoup de succès à
C'est
l'époque.
la phase 2.
Mon père me disait toujours qu'il passait la moitié du morceau pour endormir les gamins en colonie de vacances.
Mais c'était pas lui le gamin en colonie de
Si,
vacances?
justement.
Ouais, voilà.
Mais le morceau le plus important, c'est One of these days I'm going to get you in little pieces, qui est souvent raccourci à One of these days. D'ailleurs, sur l'album, c'est comme ça qu'il est nommé. Mais il faut savoir que ce petit morceau, quand même, de 5 minutes, et entièrement instrumental, a un petit easter egg quand il est joué en concert. Et
Tout
il
à
est
fait.
toujours joué en concert à l'heure actuelle, d'ailleurs, quand il y a des concerts Pink Floyd. Puisqu'il y a un petit passage dans le morceau où, en fait, les quelques notes de Doctor Who ou Dewey
Oui,
sont en jeu.
tout à fait.
Voilà. Mais uniquement en concert pour éviter les problèmes de droit. Parce que
Tout
sur
à fait.
l'album, on peut savoir où c'est quand on sait où c'est.
Oui.
On le reconnaît un
C'est.
peu, mais c'est
Voilà,
pas
une
les.
fois qu'on l'a écouté en concert, on ne peut plus ne plus l'entendre en fait en
C'est ça.
version album. Hein. Mais la version concert, bah, ce qu'il y a, c'est que c'est marrant, c'est qu'il y a plusieurs versions de concert qui existent sur des albums de concert où tu as clairement le thème de Doctor Who dedans.
Oui.
Donc finalement, bon,
Mais je crois
bref.
qu'il avait. C'était au cas où qu'il avait
Ouais.
fait ça. Et cet album est quand même assez connu pour une autre chose, parce que c'est aussi l'un des concerts publics sans personne les plus célèbres de Pink Floyd,
Oui.
puisque c'était le concert à Pompéi.
Tout à fait.
Voilà. Et donc l'album est joué à Pompéi, dans une arène de Pompéi,
Oui.
sans personne.
Oui, vraiment. Quand j'ai visité Pompéi, j'étais la seule à la classe à le savoir déjà.
Voilà.
Ce qui est très marrant, c'est que c'est un prêtre qui nous l'a expliqué en long, large et travers.
Ça n'empêche pas.
Oh oui, il était
C'était la
très fan de
période
Pink Floyd.
où t'es pas obligé d'avoir pris de la drogue pour apprécier Pink Floyd, en
C'est
fait.
vrai, c'est vrai.
Là, c'est l'album qui te procure
Ouais.
des sensations, tu vois.
Ouais. Après, c'était très marrant qu'il nous fasse visiter le Lupanar aussi.
Ah oui, ça c'est drôle, par
Ouais, c'était très
contre.
drôle.
Ça c'est drôle. Si vous savez pas ce que c'est, allez voir sur Google.
Attention, ne le faites pas au boulot.
Ah oui, non, vaut mieux pas. Alors, j'essaye de retrouver. C'est Nick Mason, je crois. Non, c'est pas Nick Mason, ça c'est.
Attends, on devrait peut-être passer au-delà de Pink Floyd à un moment donné,
Mais
non?
je juste me retrouve. Syd Barrett, voilà, d'ailleurs il est décédé. Mais Syd Barrett, c'était un des membres principaux du début de Pink Floyd, et c'était vraiment. Ah, toute la période Syd Barrett, honnêtement, maintenant elle est difficilement écoutable. Après, je peux comprendre qu'on aime, mais c'est pas mon trip.
Ok.
C'est trop psyché pour moi. Il y a des morceaux qui sont vraiment trop psychés.
Sinon, il y
Voilà.
a un groupe aussi qui s'appelle Quatermass, mais bon, on va pas épiloguer là-dessus.
Ah oui, c'est vrai.
J'appellerais pas ça comme facile d'approche pour commencer.
Non, pas forcément non plus, mais c'est marrant qu'il s'appelle Quatermass.
Ouais.
Bref, maintenant, on va en terminer avec le sujet principal sur la musique progressive. Et nous allons parler du sujet du portrait de la semaine. Mark Warren. Alors, c'est un nom que, à mon avis, vous n'êtes pas beaucoup à connaître. Pourtant, c'est quand même Elton Pop.
Elton. Ah oui.
Elton Pop.
Pop.
J'aime bien ce nom. Ça sonne marrant. J'aimerais bien voir Rowan Atkinson dire Pop. Bref, c'est un acteur que moi je connaissais avant Doctor Who. Enfin, j'ai un doute. Il faut que je regarde dans sa filmographie. Mais a priori, Les Arnaqueurs VIP, c'est avant son apparition dans Doctor Who.
Probablement, il était aussi dans un des Young Indiana Jones, apparemment.
Oui, il a fait beaucoup de séries, mais on va
Oui.
revenir sur ça dans l'ordre. Je regarde juste rapidement. Agatha Hussle. Oui, c'est ça, donc 2004. Donc juste avant Doctor Who, puisque je connaissais cette série-là
Tu as
avant.
regardé avant, ok.
Oui. parce que Les Arnaqueurs VIP, ça passait sur Paris Première à l'époque.
D'accord. Ouais, moi, je ne l'ai jamais vu parce que bah, je n'avais pas Paris Première.
Bon, t'as vu des épisodes avec moi.
Oui, bien sûr, mais à l'époque, je ne l'ai pas vu.
Alors, Mark Warren, né en 67, le 20 mars 1967. Il est acteur anglais. Il est né à Northampton, dans le Northamptonshire. Et surtout, en fait, avant de se diriger vers le théâtre et tout ça, il voulait aussi se diriger vers la magie.
D'accord.
Il est intéressé par la magie, la prestidigitation et le mentalisme, apparemment. Et il sait
Il
aussi
aurait eu
jouer de
la
la
bonne
guitare.
tête pour ça, je trouve.
Voilà, il sait jouer de la guitare aussi.
D'accord.
Voilà. Donc, il a commencé le théâtre en fait assez tôt, en mai 86, et par la suite, il a apparu dans diverses pièces de théâtre.
Notamment
Comme.
The Pillow Man,
Voilà.
qui continue toujours à jouer, mais pas par lui, hein, mais
Non.
voilà, c'est une pièce assez classique, moderne, on va dire.
C'est vrai?
Oui.
Non, je connaissais pas.
D'ailleurs, c'est lorsqu'on était à Londres, il y avait comment elle s'appelle? Allez, c'est la chanteuse aussi qui
Tina
joue.
Turner?
Mais non.
Ah non, non, je sais. Comment elle s'appelle? Ah mince, attends.
Mais en tout cas, je pense que
Lily Allen.
Lily Allen, voilà,
Lily
qui jouait
Allen.
dedans. Je sais que Tennant a aussi joué dans ces rôles-là. Donc c'est non, c'est on va dire un classique moderne, ce Pillow
Oui.
Man.
Donc, il a fait un peu de théâtre. Enfin, il est apparu dans pas mal de pièces de théâtre. Mais il a surtout fait de la télé et du cinéma, en fait. Et alors, il a commencé d'abord par la télé, joué en 87 dans la série The Bill. Il apparaît dans un épisode, il a aussi apparu dans Casualty, Grandjean, Heartbeat, et dans un épisode de Young Indiana Jones, donc le jeune Indiana Jones. Alors, c'est une série que j'ai jamais regardée.
Non.
Il y a deux raisons à ça.
Oui.
Alors, la série Indiana Jones, c'est qu'en fait. Elle n'est pas visible dans son format d'origine.
D'accord.
Parce qu'en fait, Lucas a remonté tous les épisodes pour que ça suive une chronologie. Parce qu'en fait, tu vois, Indiana Jones a trois périodes de sa jeunesse.
D'accord.
Mais les épisodes, en fait, alternaient.
Ok, il les a remontés pour que
Ouais,
ça suive.
et en fait, il a complètement remonté les épisodes. Et surtout, en fait, il a supprimé les introductions avec un vieux Indiana Jones à notre époque. Qui a vraiment été effacé complètement parce
Ah, c'est
que il
dommage.
n'apparaît plus du tout dans la série. Et en fait, maintenant en DVD, tu as plus que cette version remontée qui est apparemment assez chiante à regarder parce qu'en fait, vu que les épisodes ont été complètement remontés, remixés, c'est super poussif.
D'accord, l'esprit, oui, l'esprit d'époque est
Mais
plus là,
l'esprit est
ouais.
plus là, voilà.
Ok.
Donc heureusement, la série d'époque dans son format d'origine a été diffusée encore très récemment à la télé française. Parce que. Donc en téléchargement, elle est trouvable. J'ai
D'accord.
juste jamais fait, j'ai jamais téléchargé cette série.
À peu près au même moment, il a commencé à jouer dans des films d'ailleurs. Hein.
Oui, effectivement. Il a commencé à partir
Peu que je
de
connaisse.
95. Il y en a aussi aucun que je connais. Il y a
Alors,
Boston Cathcart, Shine, Bring Me the Head
Eliezer
of Miles
Dieder.
Davis. Oh! Attends, non, non, attends. J'essaie de... Tu me dis Hellraiser?
Eliezer Dieder.
Oh, il est dans un des films Hellraiser. Alors ça, c'est pareil, c'est... Oh mon Dieu. Ça fait partie des mauvais Hellraiser, puisque c'est en fait des scénarios que la boîte avait, et changer quelques trucs pour intégrer l'univers de Hellraiser, grosso modo,
D'accord.
pour pouvoir ensuite vendre le projet un peu plus,
D'accord, ok,
pour
oui.
pouvoir conserver les droits.
D'accord, en fait, il
C'est du
cosplayait
direct
des...
au DVD.
Ok.
L'horreur.
Honnêtement, le seul que j'ai vu dans le début de sa carrière, c'est... comment... Les Contes du Disque Monde. C'est le premier téléfilm dédié à l'univers de Terry Pratchett. En anglais, c'est Terry Pratchett's Hogfather. Ça, Hogfather. Enfin bref, ça reprend l'intrigue du père Porcher. Donc à la base, c'est un roman du Disque Monde qui se passe dans le cycle de la mort, où on
Oui.
suit Suzanne, la petite fille de la mort, qui est interprétée, si mes souvenirs sont bons, par celle qui joue Lady Suzanne
Ah oui, c'est fort possible, je crois que c'est elle, oui.
dans Downton Abbey, c'est Michel de Crys.
Oui.
Ouais. Et Mark Warren joue l'antagoniste principal, c'est-à-dire Mr. Tea-Hatimi. Tea-Time, en fait, c'est juste qu'il tient...
T.I. Timey.
Tea-Hatimi. Il tient vraiment au fait qu'on doit le prononcer de cette manière-là. D'ailleurs, je pense que la traduction de son nom en français doit être inscrite au dictionnaire à côté de coup de génie. Parce que... La blague, oh je ne veux pas qu'on m'appelle Tea Time, je veux qu'on m'appelle Tea Timmy. En anglais, c'est juste drôle parce qu'il ne veut pas se faire appeler Tea Time. Mais en français, l'heure du thé, monsieur l'heure du thé, devient, je préfère qu'on m'appelle le redouté.
Ah oui, celle-là, elle est bien,
Ce
c'est...
qui est, de la part du traducteur, dont j'ai oublié le nom, Patrick Couthon.
Patrick Coton, j'allais dire.
Patrick Couthon est un. Coup de génie,
Ah oui.
comme il en a beaucoup eu dans la saga du
Mais
Disque
de toute
Monde.
façon, la
Hein.
traduction française est même reconnue chez les Anglais
Elle est
comme étant
reconnue comme
excellente.
très bonne et elle a reçu un prix d'ailleurs, sa traduction. Enfin, c'est vraiment du génie. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que ce gars-là n'a jamais traduit quoi que ce soit d'autre. C'est même pas un traducteur,
Ouais.
c'est un musicien, ce gars.
Et puis il n'est même pas spécialisé chez Pratchett, hein, parce qu'il n'a pas tout traduit chez
Et il
Pratchett.
n'a pas tout traduit, il n'a pas traduit Good Omens, il n'a pas traduit les autres séries, mais il a vraiment traduit tout le Disque Monde, ça oui.
Il était passionné par le Disque Monde. Mais
Et
c'est...
non, c'est parce qu'à un moment donné, les gens de chez La Talente lui ont demandé parce que la première traduction des premiers tomes était très poussive.
sais pas si
Et
c'est celle que j'ai lue ou il est repassé dessus, celle que j'ai lue.
il est repassé dessus, celle
Ah,
que
il est
tu as lue.
repassé dessus. Parce que de base, les
Ben,
bouquins sont pas extra, donc...
les 3-4 premiers tomes sont. Non, les 3 premiers tomes sont un peu poussifs. Après, c'est génial, hein, mais ça reste bon quand même quand c'est poussif,
Ah
selon
non, mais il y
moi.
a des bons trucs, hein, mais c'est
Mais
juste que c'est pas extra, quoi.
c'est sans doute l'une des meilleures traductions, adaptations qui soit. C'est du génie permanent, en fait, cette VF. J'en pourrais en parler des heures, mais c'est pas le sujet. Bref, il joue du coup, il joue le redouté, qui est un personnage assez charismatique. En fait, surtout charismatique dans son envie d'être charismatique. Surtout ça, c'est intéressant. Ça fait partie des bons méchants chez Pratchett. Et si vous essayez de les voir, il va falloir télécharger parce que le DVD n'est plus édité et le seul que je viens de repérer sur Vinted coûte 70 balles. Parce qu'ils ont tous
Yes.
été, ils ont tous sorti en français et à l'époque, j'en ai acheté que deux sur les trois. J'avais acheté Discworld, donc l'adaptation des deux premiers tomes. Avec Rincevant et Deux Fleurs.
Ouais.
J'avais acheté Timbré, l'adaptation de Timbré. Et ben celui-là, je l'avais pas acheté. Et je sais pas pourquoi.
Après, le truc, c'est que moi, je les ai vus.
Et ils sont pas ouf,
Ah, ils
hein.
sont vraiment pas ouf. Timbré, j'ai réussi à le regarder en entier, mais alors Discworld, non, j'ai pas pu. C'est un mauvais téléfilm de dimanche après-midi. Hein.
Ouais.
En fait, si tu veux, moi, ce que je regrette avec ça, c'est que effectivement, les idées sont bonnes, mais c'est filmé avec zéro budget et zéro génie.
C'est Sky.
Ouais, c'est ça.
C'est Sky, c'est ça. En fait, ils auraient fait ça vers la BBC. Et pour l'instant, il y a une sorte de malédiction profonde des adaptations de Terry Pratchett parce que les trois épisodes. C'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils sont franchement pas ouf. Et du Disque Monde, hein, pas des adaptations de
Oui.
Pratchett. Il y a. Comment? Je suis en train de réfléchir. Il y a la fameuse série The Watch, donc, qui est
Oh, qui est
supposée
horrible!
adapter le gay, donc Morpork, donc le cycle du gay, qui est vraiment plus qu'une purge à ce niveau-là. Parce que autant ils sont pas ouf, les autres téléfilms, ils sont pas franchement atroces, alors que cette série-là, elle est franchement atroce. Déjà, elle a été faite par des Américains qui n'ont pas compris le livre du tout.
Ah, ils n'ont pas cherché, à mon
Ils n'ont
avis.
pas cherché, non. Ils ont juste pris les tropes des personnages et se sont dit qu'on va faire un truc sérieux et sombre là-dessus.
Oui.
Bien sûr. Ensuite, il y a The Truckers, donc l'adaptation du premier tome du grand livre des gnomes, que j'ai vu quand j'étais enfant. C'est le premier Pratchett que j'ai regardé, qui est, je ne sais pas si en anglais ça l'est, mais en français, c'est un lost media.
Oui, il est introuvable en français pour l'instant.
Introuvable totalement, je l'ai vu sur la RTBF, j'en ai un très grand souvenir. Mais même en anglais, je pense qu'il est très difficilement trouvable parce que les seuls extraits que je trouve sur YouTube, c'est vraiment du TV rip et c'est vraiment atroce. C'était de l'animation comment, en
Image
stop
Prime,
motion,
oui.
plutôt bonne en fait. Je dirais qu'elle est du même niveau à l'époque que la Vandercastle, qui est l'une des dernières séries de Jerry Anderson, qui était aussi en stop motion. Et Good Omens. Ça, c'est. Et celle. Good Omens, c'est la seule adaptation vraiment bonne.
Parce qu'elle a été supervisée par Negaman aussi.
Voilà, c'est ça. Ah, tu sais que les téléfilms de. Comment. De Sky ont été plus ou moins adoubés par Terry Pratchett. D'ailleurs, ils jouent dans chacun des trois.
Mais oui, mais je peux l'accepter, tu vois. En fait, c'est le truc avec cette...
Avec
On a complètement
Pratchett ne se
dérivé
prenait
de...
pas au
Oui,
sérieux.
c'est ça, on a complètement parti de... Mais c'est
Oui.
pas grave. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur Mark Warren. J'étais en train de regarder un truc. Parce que elle a... Ah oui, c'est ça. En fait, la fille de Terry Pratchett a écrit les
Rihanna, ouais.
scénarios de Rise of the Tomb Raider et de Tomb Raider, les remakes,
Oui,
jeux
c'est
des récents.
une auteure de jeux vidéo.
Mais je me demande si elle n'avait pas écrit un Hellraiser aussi. J'ai un gros doute. Mais je crois
Est-ce
qu'elle a écrit.
que tu peux chercher à Rihanna Pratchett
Oui,
si
c'est
ça
bon,
te
ça je
cherche, c'est
suis.
bon,
Non,
tu.
elle a écrit le scénario de Mirror's Edge. Non, je vois pas. Il me semblait, mais j'étais pas sûr. Bref, il a joué aussi Mark Warren. Pour revenir à Mark Warren, il a aussi joué dans le film Wanted avec Angelina Jolie, Martin Freeman et James McAvoy. C'est un film où on arrive à tirer en courbe les balles.
Ah bon?
Un film qui est assez mauvais. Et on va se tourner plutôt vers la télé parce qu'il y a plusieurs projets télé que je connais. Donc il a apparu dans pas mal de séries pour un épisode. Donc Young Indiana Jones, comme on parlait plus tôt. Et surtout en 2000, en 97, avant. Il apparaît quand même dans un épisode de la série Highlander.
Ok, oui, que ça, tu as particulièrement regardé apparemment.
Alors, c'est pas que je l'ai particulièrement regardé, mais Highlander a une sonorité spéciale pour les Français, je pense. Parce que c'est en France que le film a eu le plus de succès. Parce qu'aux États-Unis, le film.
Pardon.
Non, faut pas regarder.
Oui, mais
Tu vas te faire mal.
désolé, j'étais en train d'essayer de trouver le DVD en français, parce qu'il existe.
257 euros.
257 euros sur la Fnac, ben dis donc.
Ah,
Bon.
tu fais pas de bonnes affaires, Fnac.
Non, je pense pas.
La série Highlander, ce qui est marrant, c'est que c'est une série qui est coproduite avec la France. Donc, ce qui fait que Duncan MacLeod, qui est donc de la même famille que le MacLeod des films, mais c'est pas le
Oui.
MacLeod des films, a pendant une période une péniche le long de la Seine, à
D'accord.
Paris,
Oui.
en face quasiment de Notre-Dame.
Oui.
Ça m'a toujours éclaté, parce que moi je me suis toujours dit, ah, j'aimerais bien avoir une péniche là en fait. Et donc il apparaît dans un épisode. Il faut savoir aussi que dans cette série-là, il y a un épisode où il y a. Mince, comment il s'appelle? Le comique qu'on n'aime pas. Bon, il y en a plein, je sais, mais c'est celui qui joue dans les campings et compagnie.
Franck Dubosc?
Franck Dubosc apparaît dans
Bah,
un
tu sais,
épisode.
moi j'ai rien spécialement contre Franck Dubosc,
Non,
hein.
je
C'est
l'aime.
toi qui
Enfin,
l'aimes pas.
non, j'aime pas ses films.
Ah oui, non, j'aime pas
Après,
ses
le gars,
films.
ça va encore. Bon, il a des techs pétés parfois, mais comme tout le monde, quoi. Donc il apparaît aussi dedans. Donc il y a pas mal d'acteurs en fait français et anglais qui sont apparus dans cette série que tout le monde a oublié, mais qui existent.
D'accord.
Je l'avais plus ou moins suivi à moitié, donc c'est pour ça, ça. En fait, ce genre de série, tu l'as regardé parce que ça passait à la télé.
D'accord, oui.
Pas parce que tu avais envie de la regarder. Il apparaît aussi dans un épisode de la série Oliver Twist, dans les 4 épisodes en fait. Il joue le moine. Et il apparaît aussi dans Band of Brothers. Alors, Band of Brothers, je sais pas si tu te rappelles de cette série, mais elle avait eu
Si,
un énorme
c'était pas
succès
un
quand elle était
truc,
passée à la
c'était
télé.
pas Spielberg qui avait travaillé sur Band of Brothers?
Je suis pas sûr. Mais c'était dans la veine de Il faut sauver le
Oui, c'est
soldat
ça. Bon, c'est
Ryan, en
peut-être pour
fait.
ça que je pense à
Oui.
Spielberg. Comment, y a moyen de l'avoir à 49 euros sur Rakuten?
C'était créé par Tom Hanks et Spielberg.
Oui, je savais que
Voilà.
c'était du Spielberg.
Alors, moi, tu
Je me
sais quoi?
souviens à l'époque, bon, comment, mes parents prenaient le ciné-revue et pendant plusieurs mois, il y avait régulièrement une couverture avec Band of Brothers. Du
Ah
coup,
mais
c'est pour ça que
il y avait beaucoup de pubs autour de
ça
cette
m'a,
série.
comme Lost à l'époque,
Ouais.
ça avait été très très, et Desperate Housewives aussi qui avait eu énormément de succès à ces périodes-là. Et je me souviens des couvertures de Band of Brothers. Je les trouvais assez impressionnantes.
Tu veux.
Mais je l'ai jamais regardé.
Bah, moi non plus, en fait. C'est ça qui est assez drôle. C'est que j'étais en vacances en plus en Bretagne quand ça passait. J'étais chez le voisin d'à côté, où de temps en temps j'allais dormir chez lui parce que, en fait, on passait les vacances, on se faisait chier, donc on passait de l'un à l'autre de temps en temps parce que voilà, fallait s'occuper.
Quelqu'un de ton âge
Ouais.
en fait?
Et
Ah
la voix. Oui,
J'ai jamais entendu parler de cette personne avant que tu m'en parles.
parce que j'ai jamais eu de contact au-delà de ça en
Ah
fait. Parce
ouais,
que il habitait loin en France et je le voyais qu'aux grandes vacances d'été.
ok. Ok.
Et c'était le petit-fils de notre voisine.
D'accord. Comme
Et
toi, t'étais le petit, la
voilà.
petite-fille de leur voisin, eux.
Bah non, parce que c'était à Saint-Malo en fait, c'était
Ah
pas.
d'accord, ok.
Enfin,
Rien à voir.
longue histoire. Mais grosso modo, lui il était fan de Band of Brothers, il rentait pas une diffusion, et moi j'étais là, ouais, bah, je vais voir autre chose. Mais là, en fait, c'est parce que c'était à l'école, on entendait sans arrêt parler de la Seconde Guerre mondiale,
Ah oui,
et
et ça
j'avoue
te
qu'en fait
suivait.
ça ne
Ouais.
m'intéressait pas du tout en fait de regarder une série sur la Seconde Guerre mondiale, parce que j'en avais bouffé pendant plusieurs années. Je sais pas pourquoi, mais à chaque année scolaire, au collège, on passait une moitié de l'année sur la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas pourquoi.
OK.
C'est un grand mystère. Donc, après ça, il apparaît dans 2 épisodes de NC. Ah non, je confonds, je croyais que c'était NCIS, parce que. En fait, il y avait. La fille de Pratchett a écrit le scénario d'un jeu NCIS.
D'accord.
Voilà. Dans State of Play, il a apparu aussi, bien sûr, dans l'Hercule Poirot d'Agatha Christie, Miss Marple. Tous les acteurs anglais passent par série là,
Oui.
il n'y a pas
J'allais
aucun doute.
dire, c'est même étonnant qu'il n'ait pas été dans Doctor Who. Mais en fait, si,
Bah
si,
si, il
puisque
est
c'est
dans
le son
Doctor
de
Who,
mon papa.
c'est pour ça qu'on en parle. Et
Ah, c'est pour ça qu'on en parle. Non, c'est
surtout,
comme.
il a été l'un des personnages principaux de la série Les Arnaqueurs VIP, Hustle en anglais. Et là, bah, ça va être moi qui vais peut-être un peu faux dumper dessus après
D'accord.
toi, Terry
Juste
Pratchett.
avant, il était quand même sur Life on Mars aussi. Enfin, juste avant que tu
Oui, il
prennes la
apparaît dans
série
l'iPhone
Life on
Mars aussi,
Mars.
ouais. Il apparaît dans un
Voilà.
épisode.
C'est les trucs les plus. Voilà. Vas-y, vas-y, info dump-moi sur seul.
Voilà, donc Les Arnaqueurs VIP, c'est une série que j'aime beaucoup. Qui a 2 périodes en fait, parce qu'elle a une période où elle s'est arrêtée. Et c'est en fait une série qui suit des arnaqueurs, mais pas comme on a l'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, ils arnaquent pas des gens honnêtes.
Oui,
Et ça fait plaisir en
ils
fait.
arnaquent des cons, quoi.
Parce que je sais que toi, t'aimes pas trop les séries d'arnaque. Et t'avais un peu de mal avec la série au départ parce qu'en fait, bah, t'as le côté arnaque, tu vois, ou
Oui.
argent facile, tout ça. Et en fait, tu t'aperçois que tous ceux qui arnaquent, en fait, c'est des gens qui sont mauvais.
Oui,
C'est pas des bons,
ils
quoi. Ils
méritent, quoi, oui.
méritent, quoi, d'une certaine manière. Donc, c'est ce qui sauve vraiment la série. Ça, et le fait que ça fait partie de ces séries qui sont excellemment bien filmées, qui sont excellemment bien mises en scène, avec des scénarios qui sont bien écrits, avec des retournements de situation. Et ça fait plaisir de voir ce genre de série. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est ça qui m'avait tapé dans l'œil à l'époque dans cette série-là. Ça fait partie des premières séries anglaises de ce style que j'ai vues.
Que t'as regardé, oui, parce que oui, surtout si t'es avant même Doctor Who.
Bah, oui, c'était avant Doctor Who, mais c'est surtout que les séries anglaises que je connaissais à cette époque-là, c'était les séries des années 70, 60,
Oui.
80. Enfin, même
qui
67 ans, tu vois.
techniquement n'existait plus.
Qui, ouais, celle qui était plus produite, Amicalement Vôtre, celle qui passait en boucle sur M6. Et de cette période-là jusqu'à ce que je regarde les arnaques en VIP, en fait, les seules séries auxquelles j'avais accès, c'était principalement les séries américaines.
Oui.
Donc les experts, que j'ai regardé quasiment, enfin j'ai regardé une bonne partie de la série, une bonne moitié, à tel point que j'achetais les Blu-ray, enfin les DVD. Je re-regardais les DVD.
Ah oui.
Ouais,
Ah, à ce point-là,
bah les
oui.
premières saisons des experts étaient vachement bien.
Mmh.
NCIS.
Oui.
NCIS, c'est une série que j'ai suivie à l'époque. Le Caméléon, Stargate, Buffy. Non, pas Buffy. Je ne regardais pas Buffy, je dis une bêtise. Enfin bref, Charmed.
Oui.
Toutes ces séries-là, en fait, pendant une période, on avait accès que aux séries américaines, finalement.
Mmh.
Les Arnaqueurs VIP, ça fait partie des premières séries anglaises auxquelles j'ai eu accès et que j'ai regardé de manière moi-même, quoi, que j'ai été chercher.
Oui, que tu
Pas
étais
que je
cherché, que tu
regardais.
étais les... Comment... Que tu les suivais
Voilà,
assidûment,
voilà.
quoi.
Et Les Arnaqueurs VIP, c'était une série qui était diffusée sur Paris Première. On avait Paris Première, sans doute parce qu'on était à Paris.
Ah, peut-être,
Je
oui.
suis pas sûr parce qu'en fait, en dehors de Paris, j'ai jamais réussi à avoir Paris Première en dehors de Paris. Donc je pense que c'est une chaîne, en tout cas à l'époque, que tu pouvais avoir que quand t'as. Enfin, gratuitement, parce qu'on l'avait
Oui,
gratuitement.
d'accord.
Parce que sinon, tu payes le câble et tu l'as, quoi.
Oui, parce que je me souviens qu'elle était sur le. Allez, elle était sur Canal Plus le petit temps, le petit moment où j'ai eu Canal Plus,
Ouais,
je
c'est
crois.
fort possible.
Enfin, à l'époque, ça s'appelait BTV ou un truc de genre.
Et c'est une série, je me rappelle qu'il y avait certains de mes potes à l'époque qui m'en avaient parlé, tu vois, qui avaient dit, ouais, c'est une bonne série, tout ça. Mais c'était vraiment la période encore collège, quoi. C'était vraiment encore. On en parlait à la cour de récré, quoi. C'est
Oui.
marrant de se dire ça. Et c'est une série que c'est l'une des premières séries que j'ai téléchargées pour avoir les épisodes en français, parce que justement, elle était très peu diffusée à la télé, parce qu'il n'y a que 6 épisodes par saison.
Oui,
Donc,
pour pouvoir en profiter.
ouais, pour en profiter. Ça fait partie des premiers DVD que j'ai achetés, parce que Koba Film
Effectivement,
Vidéo
oui.
a sorti les deux premières saisons en DVD et ils se sont arrêtés là.
Oui, d'ailleurs, pour préciser, c'était Koba Film qui éditait les Terry Pratchett.
Oui, aussi, hein, Koba Film ont édité beaucoup de choses comme ça, je
Koba
vois.
Film a fait beaucoup de
Ouais.
bien diffusion de séries anglaises.
Et bah, c'est vraiment une série que j'adorais. Mon père aussi l'a trouvée géniale. Et en fait, elle a cet aspect des séries anglaises modernes, tu sais, où il y a des gimmicks de montage ou de mise en scène, mais en fait, c'est pas des gimmicks qui apparaissent dans tous les épisodes. Tu vois ce
Oui.
que je veux dire? Parce que
Ouais.
par exemple, dans 2-3 épisodes de la première saison, tu as un moment où tout s'arrête autour de deux personnages principaux, des arnaqueurs. Et ils se mettent à discuter de la situation, pendant que tout autour d'eux, tout est arrêté pour avoir un petit commentaire sur la situation, tu vois.
Ouais.
Et c'est utilisé que très peu dans la série, tu vois. C'est pas un truc où tu
C'est
auras ça à chaque
systématique, oui,
épisode, quoi.
voilà.
C'est pas une recette que les Américains ont copiée ad vitam
Oui,
aeternam.
c'est pas Phineas et Ferb qui ont la même structure d'épisode à
Ouais,
chaque
c'est ça.
épisode, quoi.
Donc ce qui fait que t'avais
Avec
vraiment.
les mêmes paroles, les mêmes trucs.
C'est ça.
Ouais.
Et donc, Mark Warren joue Danny Blue, un jeune arnaqueur, en fait, qui rejoint l'équipe qui est dirigée par Mickey Briggs.
Oui.
Et dedans, parmi les acteurs, il y a quand même. Je vais rapidement reprendre la liste des acteurs parce que je l'ai oublié. Dedans, il y a quand même Adrien Lester qui donc joue Mickey Briggs, qui est un acteur anglais assez connu, qui l'est toujours d'ailleurs, il joue dans pas mal de productions. Mais on a surtout Robert Glenister, qui est le frère.
De Jean, Jean
Ouais,
Genie
de Jean dans Life on
dans
Mars,
Life on Mars. Ouais.
exactement.
D'ailleurs, ils se ressemblent énormément.
Mais
C'est
il y a juste la différence de poids, en fait.
ça,
Ouais.
c'est ça. Sinon, c'est des copier-coller.
Voilà. Et surtout, on a un acteur quand même qui a du kilométrage, puisqu'il y a Robert Vaughn dedans. Alors Robert Vaughn,
Oui.
on le connaît surtout, enfin en tout cas toute une génération le connaît pour jouer dans la série des agents très spéciaux. Il joue un des deux agents, en fait.
D'accord.
Avec, attends, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié le nom de son personnage, je vais regarder rapidement. Parce que c'est vraiment un de ses gros rôles, là, Robert Vaughn. Il apparaît aussi dans beaucoup de séries, mais les agents très spéciaux, c'est Napoléon Solo. Ouais, il s'appelait Napoléon Solo. Et Ilya Kuryakin, qui était son collègue, en fait, est joué par l'acteur qui joue dans NCIS de qui, et qui est mort aussi maintenant. Ouais. Donc, pour moi, les Undercover VP, c'est une série que je conseille vraiment. Il y a 8 saisons maintenant, parce qu'il y a eu une pause, en fait. Après 4 saisons, la série s'est arrêtée faute un peu d'audience, parce que la 4e saison est pas terrible. Coproduite par les Américains.
C'est ça.
C'est à mon avis ça. Mais déjà, la 3e saison, il commençait un peu à s'essouffler, en fait, au niveau des idées de scénario. Et la 4e saison finit un peu d'achever le truc. Mais par la suite, en fait, ils vont plus loin dans les idées et ils arrivent à reprendre, à remonter, quoi. Donc ils arrivent à refondre un épisode. Mais il y a eu une pause de plusieurs années, en fait, entre les deux.
D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que Cobra Film n'a édité que les 4 premières.
Les deux
Et.
premières.
Ah, les 2 premières seulement, je
Je pense
pensais.
honnêtement qu'elle s'est pas du tout vendue. Hein.
Ok,
Je pense que
d'accord.
c'est pour ça qu'ils ont jamais. Parce que, en fait, les 4 premières saisons ont été diffusées à la télé en France. Ça, je le sais, parce qu'il y a le doublage français. Et ils ont édité que les 2 premières saisons assez rapidement. Je sais pas, il a dû se passer quelques mois entre les 2 premières saisons. En tout cas, moi, je les ai achetées assez rapidement. Et ils n'ont jamais sorti la suite. Et je pense honnêtement que c'est parce que les ventes des 2 premières saisons n'ont pas été suffisantes. Parce que, à mon avis aussi, c'était une série qui a été diffusée juste sur Paris Première, donc sur le câble, et pas sur une grande chaîne. Moi, je sais que par la suite, elle a été diffusée sur M6, il me semble. En tout cas, sur une chaîne un peu plus visible, mais en tout cas, pendant des années, je l'avais vue que sur Paris Première.
D'accord. Bon, ok.
Allez voir les Anaka VIP, allez voir du Terry Pratchett. C'est ce qu'il faut retenir de ce qu'elle casse. Il joue toujours, et d'ailleurs, sa dernière série en date, c'est la série Vandervalk.
Ouais,
Ah.
et Big Boys aussi.
Ouais, alors la série Vandervalk, je vais en parler un tout petit peu parce qu'en fait, c'est un remake d'une série qui s'appelait Vandervalk. Il joue le personnage principal qui est donc Pete Vandervalk. Et c'est une série, je crois que l'original, oui, c'est ça. Ça se passe à Amsterdam, c'est des enquêtes policières à Amsterdam. D'où le
Van
Vandervalk.
der Valk, évidemment.
Ça paraît
C'est
logique.
pour moi, Van der Valk, c'est des hôtels, mais.
Ouais, il y a un peu de ça.
Voilà.
Mais donc, c'était une série policière qui se passait à Amsterdam et c'est un remake. Alors, je sais pas si elle est toujours en cours. Mais en tout cas, ben, elle est toujours produite, elle est toujours filmée là-bas d'ailleurs, aux Pays-Bas.
D'accord.
Donc, il y a 3 saisons et en tout, il y a 9 épisodes. Hein.
Ce qui est marrant, c'est que ça a l'air d'être une coprote parce que, par exemple, le compositeur, il est très probablement hollandais vu son
Ça c'est
nom.
quoi, Mathias Keboom?
Non, Matthijs
Matthijs, oh, j'étais pas loin, ça
Keboom.
va. J'étais pas loin.
Keboom.
Keybone.
Boom.
Boom. C'est dur à dire, hein, le flamand. Bref, ah, mais cette fois-ci, c'est ITV. Hein.
D'accord, c'est ITV.
Ouais.
Ok.
Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur Mark Warren. C'est un acteur qui est toujours qu'on voit toujours à la télé anglaise en fait. C'est un acteur qu'on voit pas forcément dans les premiers rôles, quoique dans Vandervalk il est le premier rôle.
Oui.
Dans les ans d'un VIP, il était aussi un des premiers rôles. Il a une bonne tête. Dans Doctor Who, il joue un
Oui.
personnage sympa.
Oui, franchement, il est attachant.
Ouais.
Sauf dans Pratchett où il est vraiment affreux. Effrayant.
Ah oui, mais je vous le redoutais en même temps.
Oui.
C'est pour ça. Voilà, donc rendez-vous dans le prochain Gaïcast. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur gaïfrance.fr et sur Patreon pour avoir un Gaïcast en avance et d'autres vidéos en avance. Et nous vous donnons rendez-vous dans le prochain Gaïcast. Et puis, bah, va
Va
boum!
boum!